Vous écoutez
RMC. RMC, 9h-10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Allez, 9h08 sur RMC. C'est le retour de ce week-end des experts après le jardin, après la maison, après la forme, la santé. Place à la vie numérique, c'est comme ça tous les samedis, 9h-10h. Raphaël, rebonjour.
Salut François.
Raphaël Grabli, journaliste à BFM Tech et qui, évidemment, nous distille tous ses précieux conseils chaque samedi matin. Avec tout à l'heure un gros dossier, Raphaël, on va plonger dans l'obsolescence de nos appareils tech et peut-être aussi trouver des alternatives aux neufs, si on doit acheter par exemple un smartphone.
Exactement, parce que le smartphone reconditionné marche très très bien en ce moment. Il y a beaucoup de modèles qui sont maintenant disponibles. On aura avec nous en studio Augustin Becquet, qui est directeur général de Recommerce Solutions. Alors Recommerce, c'est une entreprise qu'on commence maintenant à bien connaître, oui. Qui reconditionne des téléphones, c'est-à-dire qu'il les remet en état, qu'il les revend, et forcément c'est meilleur pour la planète. Et puis on va parler aussi de l'impact écologique du numérique d'une façon plus générale avec Caroline Sun, qui est porte-parole du collectif Green IT. Et puis on va essayer de voir avec elle déjà dans quelle mesure le numérique est absolument à ce point polluant, et puis ce qu'on peut faire aussi au quotidien, ce qu'on peut changer dans nos usages pour polluer moins.
Voilà, est-ce que utiliser son smartphone différemment ferait qu'on pourrait polluer moins? Tiens, ça peut être intéressant.
Acheter son smartphone différemment, alors forcément avec le reconditionné, et même ne serait-ce qu'en choisissant.
En choisissant
le modèle initial.
On en parle tout à l'heure. Tiens, le choix, on va en parler dans un instant avec ton conseil, hein, Raphaël. Alors évidemment, on connaît les Samsung, les Apple dans le monde du smartphone, mais il n'y a pas que ces marques-là. Et il y a certaines marques qu'il faut prendre en compte si on doit changer, par exemple, de smartphone.
Oui, c'est vrai que le paysage, je dirais, allez, en 5 ans, a complètement changé. Il y a des marques qui étaient leaders il y a quelques années qu'on voyait partout. Je pense à LG, je pense à Sony.
Nokia,
qui aujourd'hui, franchement, ne représente plus grand-chose en termes de part de marché. Et à l'inverse, il y a beaucoup de marques, souvent chinoises, quasiment toujours chinoises, mais qui proposent des produits avec des excellents rapport qualité-prix, qu'on ne connaît pas encore très bien. Et donc, je vais donner quelques petits conseils pour aiguiller nos auditeurs selon les types de smartphones qu'ils recherchent. Souvent, évidemment, on les paye aussi moins cher.
Alors là, c'est du smartphone neuf, bien sûr, mais il en faut un peu pour tous les goûts. Le 3216, l'appli RMC Direct Studio, si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas. On est là jusqu'à 10h. Et on attaque avec Jocelyn, qui est là, au 3216. Bonjour Jocelyn.
Oui, bonjour.
Jocelyn nous appelle. Vous êtes en Gironde, c'est ça?
Oui, exactement.
Et on vous écoute, Jocelyn. Qu'est-ce qui vous arrive?
Non, c'était pour savoir je voulais peut-être acquérir le nouveau Samsung Fold 2 là.
Ah oui.
Savoir si c'est valable ou s'il n'y a pas de problème sur la pliure tout.
Oui, par rapport au modèle précédent qui a eu quelques petits soucis de solidité, qui avait dû être repris puis remis en vente.
Voilà.
Bon, Jocelyn, vous avez déjà la carte bleue qu'il faut, parce qu'il n'est pas donné, le Fold 2.
Non, mais c'est simplement pour savoir, pour quelques renseignements.
D'accord, très bien. Alors, le Fold 2, rappelons-le, nouveau téléphone de Samsung qui a la particularité d'être pliable.
Exactement, c'est un peu aussi, si on le voit. Alors, d'ailleurs, je pense que beaucoup de nos auditeurs le voient parce que Samsung fait énormément de pubs.
Énormément de pubs.
Je le vois partout.
Belle pub d'ailleurs, très impressionnant.
La pub, franchement, est très sympa. Je suis un peu étonné parce que c'est vrai que par rapport à la quantité de pubs, je me dis qui peut se payer quand même ce smartphone. Alors après, c'est de l'image de marque. C'est montrer que Samsung est innovant, ce qui est d'ailleurs totalement vrai. Ça tombe bien d'ailleurs, Jocelyn, que vous nous appeliez, puisque figurez-vous que je suis en train de l'utiliser en ce moment. J'ai le droit de le tester. Voilà, je le teste pour Samsung. Pour BFM Tech, mais avec Samsung. Et
déjà le prix 2020 euros.
2020 euros, on est en 2020, 2020 euros. Voilà, c'est facile à retenir. Il est très très cher. En fait, moi, la question que je me pose, c'est vraiment l'usage. Parce que les problèmes de fragilité, etc. C'était en partie résolu. Après, ça reste un mobile très fragile parce que il y a une charnière, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on peut pas le protéger contre l'eau. Mettre une coque là-dessus, c'est pas possible puisque
comme l'écran est pliable, il est un peu mou.
Donc c'est un smartphone qui est fragile. Et puis, en fait, c'est un magnifique produit, mais j'arrive pas à comprendre pour qui. à qui il s'adresse. Parce que pour moi, il s'adresse vraiment à une niche. C'est-à-dire qu'en position fermée, c'est un peu comme un livre. En position fermée, on a un écran, mais qui est tout en longueur, qui est très joli, mais enfin qui a un format particulier. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à écrire sur cet écran parce que le clavier virtuel est très, très étroit. Donc moi, j'arrive pas à l'utiliser. Donc c'est bien pour consulter ses mails, les réseaux sociaux, mais pour écrire, c'est compliqué. Une fois ouvert, franchement, c'est génial. On a une tablette qui est bord à bord. Franchement, c'est absolument magnifique. Mais là encore, la prise en main, c'est pas évident. Le clavier, d'ailleurs, il est aussi très, très large. Donc, il est divisé en deux. Donc, c'est pas évident. Donc, il faut vraiment l'utiliser. Surtout, je pense aux gens qui ont besoin d'utiliser le clavier, qui ont besoin d'envoyer des mails pour la productivité, pour le travail un petit peu. Là, j'incite vraiment les auditeurs intéressés à aller l'essayer. Parce que franchement, tout le monde ne peut pas le prendre en main comme ça. Après, oui, sur le papier, la prouesse technique est là. On a un smartphone.
C'est un produit qui est merveilleux. Hein. Enfin, mais on l'a eu, c'est vrai, en main tous les deux, hein, Raphaël.
Non, mais le produit, il est incroyable.
C'est vrai que quand on est un peu fan de nouvelles techno et qu'on on s'intéresse en fait à l'innovation technologique, on se dit waouh, c'est quand même incroyable quoi d'arriver à faire ça aujourd'hui.
Oui, et puis surtout moi, ce qui m'impressionne, c'est la progression par rapport au modèle précédent en termes de finition. Enfin, non, mais c'est un objet. Si on aime les nouvelles technologies, on peut pas ne pas être impressionné par le téléphone. C'est une merveille. Par contre,
après, c'est les usages.
À qui je recommande de l'acheter, bah, franchement, j'ai du mal à savoir. C'est vrai, si vous aimez les séries, si vous voulez vous en servir comme ça pour regarder des séries, des contenus, pourquoi pas, mais voilà, c'est 2020 €, donc c'est un investissement qui est absolument colossal hein,
pour un téléphone. Pour 2020 €, on peut avoir un excellent smartphone et une excellente tablette, et ça nous coûtera sans doute moins cher en plus.
On peut même avoir un bon smartphone et un bon ordinateur à ce prix-là.
Voilà, plus.
En plus, donc c'est vrai qu'il y a toujours la question des usages. En fait, je trouve que c'est à la fois, c'est un magnifique produit, mais c'est un téléphone compliqué à utiliser et une tablette un peu particulière. Ouais. Est-ce qu'il faut pas acheter encore les deux? Est-ce qu'en 2020 le smartphone est pliable? Bah clairement non, parce que on voit que le prix avec les il s'adresse à une élite entre guillemets, ou à une niche, plutôt pas une élite mais une niche. Donc faut vraiment l'essayer en tout cas, et évidemment avoir les moyens derrière.
Ça vous va, Jocelyn?
Bah oui, je vous remercie.
Bah écoutez, merci.
Si vous avez
vous.
L'occasion de l'essayer vers chez vous, allez-y, franchement c'est ne serait-ce que l'expérience, avoir montré voir ce que c'est très sympa, ouais. Vraiment.
Jocelyn, merci à vous.
Bonne journée, au revoir.
Merci Jocelyn.
Et puis surtout, hein, comme le disait Raphaël, n'hésitez pas à aller dans les magasins spécialisés. Hein, ils sont souvent en démo, ces téléphones-là. Comme ça, vous rendez compte, avant de dépenser une telle somme, c'est la moindre des choses. Si tout comme Jocelyn, vous voulez joindre Raphaël pour poser une question Vie Numérique, parce que vous hésitez entre tel ou tel smartphone, tel ou tel PC ou tablette ou que sais-je, hein, même dans le domaine des applis, hein, il y a pas mal d'innovations. N'hésitez pas à 3216, l'appli RMC Direct Studio, c'est votre rendez-vous dédié à la vie numérique chaque samedi entre 9 et 10. Il est temps de retrouver le tuto de Raph.
RMC, ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Le tuto de Raph.
Et puis aussi, n'hésitez pas à nous appeler pour évoquer l'obsolescence programmée, hein, l'obsolescence des appareils tech. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez été victime, à votre avis, hein, d'obsolescence, même si c'est parfois quelque chose, un mal difficile à déceler et vraiment à analyser, hein.
D'un point de vue juridique, c'est alors, très encadré. En fait, il faut prouver que le fabricant a intentionnellement limité la durée de vie, ce qui en fait n'arrive jamais.
Bien sûr.
Je crois que les cas d'obsolescence programmée dans l'histoire, juridiquement, il n'y en a quasiment aucun en France. En
tout cas, et puis est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des constructeurs qui programment la fin d'un appareil? Bon, enfin voilà, c'est un peu...
Après qu'ils ne mettent pas tout en œuvre pour sa bonne durée de vie, ça c'est autre chose.
Ça c'est autre chose. Ça c'est pour des raisons économiques.
Exactement.
Mais de là programmer la fin d'un appareil de la part d'un constructeur, bon, on va en parler tout à l'heure. N'hésitez pas. 3216, l'appli RMC Direct Studio. Ton tuto donc. Eh bien aujourd'hui, on a le choix si on veut s'offrir un nouveau smartphone. Il n'y a pas que les Ténor, il n'y a pas qu'Apple, il n'y a pas que Samsung, il y a d'autres marques moins connues mais qui valent le détour.
Oui, je dis ça aussi parce que la semaine prochaine, on va pas mal parler d'Apple, hein, puisque mardi, il y a la présentation des nouveaux iPhones qu'on attend beaucoup parce que ça va aussi être les nouveaux iPhone 5G. D'ailleurs, samedi prochain, on en parlera. On parlera un peu de tous ces smartphones haut de gamme.
Qui vont être annoncés. Les nouveaux iPhones vont être annoncés mardi prochain.
On parle souvent de Samsung, forcément, on vient d'en parler, de Huawei. Mais c'est vrai que pour l'achat d'un smartphone, il faut aussi penser aux petites marques. Alors, je mets petites entre énormes guillemets. Pourquoi? Parce que quand je dis petites, c'est parce qu'elles sont peu connues en France.
Oui.
mais clairement c'est pas des petites marques parce qu'elles appartiennent en général.
Parce qu'en Chine, c'est des centaines de millions de gens ont leur téléphone.
Exactement, c'est même d'ailleurs si on regarde les vendeurs de smartphones dans le monde, ils sont 4e, 5e, 6e, donc c'est des énormes marques au niveau mondial, mais en France, c'est encore récent. Alors parmi ces petites, entre guillemets, on parle beaucoup ici de Xiaomi, parce que c'est vrai que pour les smartphones d'entrée de gamme, la gamme Redmi, qui sont des smartphones qu'on va trouver à 200, entre 200 et 300 euros, qui ont un design excellent, enfin très très joli, qui ont un bon écran, qui sont assez bons en photo. Donc c'est vraiment le smartphone d'entrée de gamme qui est, je trouve, une sorte de valeur sûre. D'ailleurs, on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui en ont acheté, qui en sont assez contents. Il y a aussi Oppo. Alors Oppo, c'est un peu le nouveau Huawei. Je dis ça parce que Oppo, c'est un géant, justement. Ça fait partie de ces géants, dans le top 5 des vendeurs dans le monde. Et il y a une gamme qui s'appelle la gamme Find. C'est comme trouver en anglais. Et c'est un peu du smartphone premium, mais en moins cher. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des mobiles à 900 ou 1000 euros, ils vont être plutôt dans les 600-700, mais sans qu'il y ait vraiment de compromis. C'est-à-dire que le design est très qualitatif. Il y a un très bel écran en photo. Ils sont bons en photo. Souvent, c'est là où ça peut un peu pêcher. En photo, ils sont excellents. Je peux parler aussi de OnePlus, d'ailleurs, qui est un peu une sorte de, pas de filiale, mais qui est un peu dans le même groupe que,
voilà,
que
Oppo. Si vous n'avez pas eu le temps, Raphaël récapitulera la fin, oui, un petit résumé.
Voilà, je donnerai les marques. Mais voilà. OnePlus, moi, c'est une marque que j'adore. D'ailleurs, ils vont annoncer un nouveau mobile aussi cette semaine parce que c'est l'interface Android de OnePlus est juste exceptionnelle. Je trouve que c'est une interface qui est fluide, qui est très, très agréable, qui est vraiment, enfin, moi, j'adore l'utiliser au quotidien. Et puis, il y a une autre marque dont je voudrais parler, qu'on connaît encore moins, qui s'appelle Realme. Alors, Realme, ça s'écrit R-E-A-L-M-E, Real comme Realme. Alors ça, c'est une marque qui se revendique comme indépendante, qui a été fondée d'ailleurs par un ancien d'Oppo, hein, en général. Voilà, c'est un petit cercle en général qui...
Oui, c'est
qui,
ça. Qui on dirait que c'est la même famille qui
exactement.
Le cousin va fabriquer une marque, d'autres cousins va fabriquer une marque.
C'est un petit peu ça. Alors, ils assurent qu'ils sont indépendants, ils ont des petits accords avec Oppo sur les lignes de production, etc. Mais alors là, c'est vraiment...
Ils font tous partie de BBK, je crois.
Alors, c'est un peu compliqué. Tu sais, en Chine, c'est très compliqué de savoir au niveau capitalistique qui dépend de qui, mais il y a des, on va dire, des accords et des partages de certaines lignes de production. On va dire la spécificité de Realme, c'est des smartphones avec des specs, des performances haut de gamme, les mêmes que les smartphones à 1000, mais à moitié prix.
C'est ça qui est dingue.
Et ça, c'est absolument dingue. Les smartphones sont excellents. Alors, il y a un design qui est un peu plus engagé, on va dire, c'est-à-dire avec des couleurs un peu pêchues, un peu flashy, faut aimer.
D'ailleurs, ils se revendiquent comme étant les smartphones des jeunes. Hein,
exactement.
C'est ça
un peu comme Honor, d'ailleurs, hein, comme la marque qui appartient à Huawei, mais Honor, je peux plus les recommander. Parce que, comme Huawei, il n'y a plus d'appli Google, donc c'est compliqué. Donc voilà, il y a ces marques-là auxquelles il faut penser qu'ils commencent.
Realme vient de sortir deux téléphones, là, le 7 et le 7 Pro, qui sortent dans les jours qui viennent et qui ont d'excellents rapports qualité-prix, alors qu'ils ne sont pas dans du haut de gamme.
Oui.
Mais pour les 200 et 300 euros, on a des spécificités, comme tu le disais, qui font vraiment tout ce qu'il faut aujourd'hui dans un smartphone.
Complètement, complètement. Et puis, on peut parler aussi d'un Américain, Google. Alors, ce n'est pas une petite marque, parce que Google, évidemment, c'est un GAFA, mais c'est une petite marque au niveau du mobile, que finalement Google, c'est assez récent dans le mobile. Ça fait 3 ans en France et les ventes au niveau du volume, ça ne représente pas grand-chose. Mais je viens de tester notamment le Pixel 4a, qui coûte, d'après mes souvenirs, 350 euros, qui est absolument phénoménal en photo, qui a en plus un format compact que j'adore.
Il est sorti en 5G aussi.
Et qui sort en 5G, puis il y a Pixel 5 aussi,
Pixel
en plus haut de gamme
aussi.
qui va arriver. Donc aujourd'hui, il faut juste avoir conscience, quand on veut acheter un mobile, que l'écosystème s'est vraiment transformé. Il y a toujours Apple, il y a toujours Samsung, Huawei, c'est un cas particulier, mais c'est vrai que ces marques ont remplacé les marques de seconde catégorie ou un petit peu derrière qu'on aimait beaucoup, qui s'appelait LG, qui s'appelait Sony. Il y a eu Wiko aussi, qui marchait bien. Maintenant, c'est vrai qu'avec des mobiles chinois au même prix qui sont beaucoup mieux, c'est compliqué pour eux de se faire une place. Donc, il faut regarder. Alors, la contrainte, c'est qu'il y a beaucoup de références. Et donc là, évidemment, il faut aller voir un petit peu les tests au cas par cas. Mais voilà, Xiaomi, Oppo, OnePlus,
Realme
ou Google, qui fait aussi du très bon smartphone. Et ces marques qu'on trouve maintenant, qui sont vraiment installées en France et qu'on trouve maintenant un peu partout.
Raphaël, on revient dans un instant. La météo arrive, 9h22. Et ensuite, on passera au numérique et la transition écologique. Comment mettre fin à l'obsolescence de nos appareils, si obsolescence il y a. Et puis surtout, on s'intéressera aux smartphones reconditionnés. Est-ce que ça vaut le coup? Avantages, inconvénients de ce type d'offre. On en parle avec notre invité. À tout de suite, et RMC.
RMC jusqu'à 10h.
Étant donné l'époque, nous avions pensé que les téléphones...
Pas biodégradables.
Dis, attention, elles sont pas d'hier.
D'accord, elles sont pas d'hier. Est-ce que vous pensez qu'elles sont obsolètes?
C'est pas faux.
Votre vie numérique.
Le changement, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. Et vive la France.
François Hollande est prêt à changer de téléphone, apparemment.
Oui, visiblement. Comme quoi, l'obsolescence, elle est un peu partout, même en politique. Hein, Enfin, bon, ça, c'est un autre débat.
Peut-être François Hollande en reconditionné, peut-être qu'il faudrait le tester.
D'occasion, peut-être. 9h30 sur RMC, c'est reparti pour ce week-end des experts, la vie numérique. Raphaël, on va évoquer maintenant bien le numérique et la transition écologique. C'est un sujet forcément qui nous concerne tous. Comment mettre fin à l'obsolescence de nos appareils tech au quotidien?
Oui, cette semaine, il y a eu un colloque sur le numérique et l'environnement qui est organisé notamment par Cédric O, qui est ministre, enfin, secrétaire d'État à la transition numérique d'ailleurs. C'est à la transition numérique. Et puis Barbara Pompili notamment, qui est ministre de la transition écologique. Alors, de ce colloque, a émergé une feuille de route, alors que je trouve assez vague, mais enfin qui a le mérite d'exister, notamment pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et on a la chance d'avoir avec nous en studio deux acteurs du numérique écologique, on va dire, plus écologique, qui étaient notamment à ce colloque. On a avec nous Augustin Becquet, donc, qui est directeur général de Recommerce Solutions. Bonjour Augustin Becquet.
Bonjour.
Bonjour.
Recommerce est donc l'un des leaders du marché du smartphone reconditionné. On va en parler tout à l'heure. Mais
ouais, vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un smartphone reconditionné.
Exactement,
vraiment.
Ce qu'on trouve. Mmh. On trouve notamment quelle est l'offre de smartphone reconditionné. Et puis si ça coûte moins cher, parce que ça, je pense que ça intéresse forcément du monde. Et puis on a également avec nous en studio Caroline Son. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du collectif Green IT, donc qui est une sorte de collectif d'acteurs du numérique qui essaie de s'engager, de trouver des solutions, d'alerter aussi d'ailleurs à la population, parce que vous produisez régulièrement des rapports notamment.
C'est ça.
Sur le sujet. Vous étiez intervenante notamment dans ce colloque, mais j'ai envie de dire une question assez concrète déjà, est-ce que le numérique pollue tant que ça?
Bonne question. En fait, on aime à dire qu'en fait que le numérique c'est une ressource critique non renouvelable parce que finalement elle va être épuisée à une ou deux générations. Donc on parle en fait de métaux communs, métaux rares, terres rares, qui composent. On a 50 à 60 métaux qui composent nos smartphones ou nos PC.
Notamment dans les circuits imprimés, les batteries, etc.
Voilà. Ouais, tout à fait.
C'est-à-dire que le numérique c'est pas virtuel. Hein. Dans nos téléphones, il y a des pierres, des matériaux où il faut creuser pour les trouver et qui sont extrêmement difficiles à trouver.
C'est 40 kilos de matière par smartphone. Donc
d'accord, 40 millions de matière. 40 kilos déblayés, on va dire, autour pour trouver qu'il faut pour faire fonctionner un
smartphone. Beaucoup plus. Après, en terre excavée, on parlait de 100 kilos. Enfin, voilà. Il faut extraire beaucoup de terre. Et en plus, on a maintenant moins de mines riches en métaux. Donc, il faut encore plus extraire.
Comme le pétrole. Il faut trouver de plus en plus difficilement des matériaux pour pouvoir fabriquer.
Il faut creuser plus profond pour trouver ce qui reste. En fait, c'est ça. Ouais.
Et on a aussi des durées du coup de stock moins importantes que le pétrole, pardon, parce qu'on a des métaux qui arrivent à échéance en 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Mais est-ce que c'est comme le pétrole où on dit ça depuis 50 ans et puis
c'est
finalement...
Oui, c'est parce qu'on extrait mieux. C'est-à-dire qu'on sait globalement les mêmes.
Mais dans 10 ans, on va trouver sûrement d'autres façons d'extraire. Non, c'est plus difficile pour
vous. Oui, en termes de technique d'extraction, enfin là, on a quand même bien amélioré. Donc voilà, donc c'est cette partie-là, donc d'épuisement et aussi de problématiques géopolitiques, parce qu'en fait, on dépend sur certains métaux à 80% d'un seul pays. Donc s'il y a un problème sanitaire
de la Chine.
Pas que, hein, parce qu'il y a beaucoup de pays, enfin en Australie,
en
Amérique, en République du Congo, qu'on aime souvent. Mais voilà, il y a toute une liste qui a été faite par l'Europe pour justement identifier ce problème.
Concrètement, les accusés de cette pollution, c'est qui? En termes d'appareils, c'est quoi? C'est nos smartphones le principal accusé? Ou il y a d'autres
habitudes? Tous les équipements, après, effectivement, smartphones, PC, nos télés, nos écrans, les serveurs, le réseau, enfin tous les équipements du réseau. On a en France entre 11 et 15 équipements numériques. Donc on comptabilise aussi les box, les décodeurs télé, tous les
appareils enceintes
connectés, tout ce qui se connecte finalement au réseau.
Et Caroline, qu'est-ce que vous préconisez, vous, alors, C'est parce que bon, finalement, ces appareils, on est obligé de les avoir et on travaille avec.
Bien sûr, c'est indispensable.
C'est indispensable. Mais qu'est-ce que vous préconisez ?
En fait, le principal point, c'est effectivement de pouvoir garder son terminal, enfin son équipement, le plus longtemps possible.
C'est ça la clé. Si on veut réduire en fait cette empreinte, c'est de garder nos appareils le plus longtemps possible.
Parce que 80% de l'empreinte du numérique, donc besoin en eau, besoin en ressources, émissions de gaz à effet de serre, besoin en énergie, provient de la fabrication. C'est vraiment, d'accord, donc au moment où vous achetez votre équipement, vous avez déjà 80% de votre empreinte carbone, etc. Tout se joue à l'achat. Donc après, à partir du moment où du coup on a acheté, plus on le garde plus longtemps et moins on rachète, voilà, moins on régénère des impacts. Donc du coup, effectivement, travailler sur tout l'écosystème pour s'assurer qu'on peut réparer, avoir des appareils de bonne qualité, durables, réparables.
C'est ce que veut faire d'ailleurs le gouvernement. Ils veulent étudier la réparabilité des smartphones, qui est un point qui est assez critiqué. Aujourd'hui, les smartphones, alors c'est vrai qu'on veut tous des très beaux smartphones, donc ils sont en verre, ils sont magnifiques. Mais on peut pas. C'est très difficile de les réparer aujourd'hui. C'est trop difficile.
De plus en plus, parce que finalement, comme on est dans une dynamique depuis quelques années récentes, hein, de changer assez régulièrement tous les deux ans avec les programmes de fidélité, etc. De smartphones. Donc du coup, les constructeurs en fait ne s'embêtent plus à faire en sorte qu'ils soient réparables.
Oui, bien sûr.
Tout est collé, et même au niveau du recyclage, on peut quasiment rien récupérer. Même la partie plastique, si elle est collée avec autre chose, on peut pas le recycler côté plastique. Donc on a de moins en moins, enfin il y a moins de 10% et même pour les plus récents encore moins d'éléments recyclables, récupérables.
Après Caroline, c'est pas parce qu'on change de téléphone que notre précédent téléphone va à la poubelle ou dans un tiroir. On va en parler avec notre deuxième invité, mais c'est vrai que ce téléphone peut avoir une deuxième vie. Et il est important de ne pas laisser le téléphone que l'on va laisser et qui va être remplacé dans un tiroir. Il faut lui redonner une deuxième vie, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça. Faut effectivement essayer de rapidement le remettre en fait dans un circuit annexe. Il y a pas mal de solutions et il faut qu'il y en ait de plus en plus pour pouvoir.
Mais il faut y penser parce que typiquement et moi j'en
il faut inciter.
Je suis aussi coupable. Hein. J'ai des téléphones qui dorment dans des tiroirs et on est tous dans ce cas.
Je crois qu'il y a entre 50 et 100 millions. Alors les chiffres sont très difficiles à évaluer, évidemment, de téléphones qui dorment dans les tiroirs. J'ai vu qu'il y a pas mal maintenant de grandes enseignes qui font des grandes opérations de collecte. J'ai entendu d'ailleurs une pub Boulanger. D'ailleurs, j'ai l'impression une opération de collecte. Donc n'hésitez pas à aller déposer vos téléphones. Malgré tout, une note d'optimisme, j'ai l'impression que ça s'améliore. Parce que les fabricants aujourd'hui ont l'air quand même un peu plus sensibilisés. Alors pas partout, mais j'ai l'impression, enfin d'après les chiffres, que la durée de vie d'un téléphone augmente. Alors parce que les composants initialement sont plus puissants. Or nos usages ne sont finalement pas forcément beaucoup plus gourmands. Donc on a des téléphones qui sont plus solides en termes de performance. Je vois que vous êtes pas totalement d'accord. Oui. Et puis il y a ce qu'on appelle, et ce qui est peut-être le plus important, l'obsolescence logicielle. C'est-à-dire qu'avoir un téléphone dont les composants sont encore fonctionnels, c'est bien. Mais si on n'a pas le logiciel à jour, ça sert à rien parce que ça peut être même dangereux en termes de sécurité. Et là aussi, l'obsolescence logicielle est réduite parce que maintenant, on voit que les marques essaient de mettre à jour les téléphones plus longtemps qu'avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, pour la partie obsolescence logicielle, c'est effectivement ce qui va en fait provoquer aussi l'obsolescence du coup du matériel, parce que on appelle ça de l'obésiciel, le côté obésiciel, c'est-à-dire que nos systèmes d'exploitation prennent de plus en plus de place. Hein, chaque fois que vous mettez à jour votre système d'exploitation, il passe de 50% de votre mémoire à 70, 80. Voilà, il prend de plus en plus de place. Il y a un moment donné, votre téléphone, il peut plus fonctionner. Même si vous supprimez plein d'applications, y a plus
c'est moins le cas maintenant aussi, parce que je veux dire, c'est quoi? C'est 10 gigas sur maintenant des téléphones qui ont 64 gigas au minimum. Donc finalement, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ça?
De toute façon, comme les logiciels prennent de plus en plus de place, même si les téléphones essayent de suivre en proposant.
Et puis il y a les photos et les vidéos
qui sont stockées dans le cloud aussi. Ça, on a pris l'habitude maintenant stocker dans le cloud. Et c'est là où il y a une autre pollution, c'est la pollution des serveurs forcément. D'ailleurs, il y avait un rapport très intéressant, un article très intéressant sur Green IT, qui expliquait que Excel et Windows, aujourd'hui, consommaient 170 fois plus de mémoire vive qu'Excel et Windows en 97. Alors pourtant, bon, sur Excel, en général, à moins d'être expert en Excel, nos usages n'ont pas considérablement
changé. Ou même Word, de toute façon.
Ouais, Word, c'est... C'est pareil. Donc aujourd'hui, les logiciels sont trop gourmands à vos yeux. Faut simplifier.
On dit souvent que 80% en fait des logiciels ou des applications qu'on utilise ne sont pas utilisés en termes de fonctionnalités. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on pousse en fait justement dans la feuille de route qui doit sortir à la fin de l'année le fait de pouvoir redonner le contrôle aux consommateurs pour qu'ils puissent choisir les versions logicielles qu'ils souhaitent installer, mettre à disposition toutes les versions logicielles qui sont dispo pour pouvoir les réinstaller éventuellement.
Les développeurs, c'est un enfer parce que quand on développe une application, on est obligé d'avoir une certaine harmonie parce que sinon on doit en permanence développer pour toutes les versions logicielles. Est-ce que c'est pas compliqué? Et ça veut dire qu'il faut développer des mises à jour de sécurité aussi.
Il faut séparer, donc c'est ce qu'on préconise, de séparer les types d'installations correctives et de sécurité. D'accord. Qui sont obligatoires. Et puis si c'est de nouvelles fonctionnalités qu'on n'en a pas besoin, de pas les installer.
Mais
redonner le contrôle aux consommateurs.
Vous parliez de Word et Excel. Est-ce qu'on peut pas imaginer aussi des versions light de ces produits?
C'est ce qui existe d'ailleurs pour les pays en voie de développement. On a tout Facebook.
Avec l'essentiel qui suit. Je dirais à 90% des gens, en fait.
Qui pèse beaucoup moins.
Oui, c'est le cas des logiciels libres, effectivement. Les gens finissent par utiliser ça, même des OS libres, parce que les Windows prennent trop de place sur leur matériel. Mais en tout cas, voilà, on préconise aussi beaucoup la conception de pouvoir éco-concevoir, en fait, les sites et les logiciels pour qu'ils soient aussi beaucoup plus fluides et que même en 2G ça passe qu'on met trop d'images, trop de vidéos, trop de...
Et puis si les fabricants aussi pouvaient installer moins d'applications quand on allume le téléphone pour la première fois, c'est ça aussi, il y a beaucoup d'applications préinstallées dont on se servira jamais, ça pourrait aussi alléger alléger un peu la tâche.
Ça, c'est le business aussi.
Forcément, derrière, il y a des accords. Dernière chose, les GAFA ont tous annoncé des programmes pour être plus durables, atteindre la neutralité carbone. Est-ce que pour vous,
Google, Apple, Facebook,
Amazon, ils ont tous dit on va être neutre en carbone, on va alimenter nos centres de données en éolien, etc. Est-ce que pour vous, ils sont sur la bonne voie?
Alors après, c'est une bonne dynamique. Après, souvent dans la neutralité, il faut pas regarder que la partie carbone finalement, parce qu'on regarde si on regarde que la partie émission de gaz à effet de serre, du coup, on va augmenter d'autres indicateurs. C'était le cas, je pense, de Google où en fait, du coup, il utilisait beaucoup d'eau et ce qui a causé un souci dans la région parce qu'il consommait beaucoup trop d'eau
pour refroidir.
Et plus personne ne veut leur data center et ils voulaient en créer un autre et ils en veulent pas parce que ça crée une concurrence avec l'agriculture.
Ah oui, c'est etc. Alors qu'à l'inverse, on pourrait s'en servir pour chauffer. C'est ce qu'on commence à faire maintenant. C'est des data centers qui produisent de la chaleur, chauffer les bâtiments avec cette chaleur.
Caroline, vous restez avec nous. On va poursuivre ce sujet passionnant dans un instant avec notre deuxième invité. On va parler des smartphones reconditionnés. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Vous allez tout savoir dans une minute. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre vie numérique.
François Sorel.
Raphaël Grabli.
Est-ce que numérique rime avec transition écologique? Écoutez, on essaie en tout cas de le conjuguer tout ça ce matin avec Raphaël Grabli et nos invités, Caroline Son, qui est porte-parole du collectif Green IT, et notre deuxième invité, Raphaël, Augustin Becquet, qui est le directeur général de Recommerce Solutions.
Oui, Recommerce, qui est l'un des acteurs majeurs du smartphone reconditionné en France. On parle beaucoup du smartphone parce que c'est l'un des plus polluants, celui qu'on achète le plus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Augustin Becquet, le smartphone reconditionné, c'est la solution à tous les problèmes écologiques liés au smartphone?
Je veux dire, c'est pas la solution à tous les problèmes, mais c'est une des solutions. Donc là, ce qu'on fait chez Recommerce, c'est basiquement racheter des téléphones qui ont déjà été produits. On les remet en condition, donc on les reconditionne, et ensuite on les revend. Donc on donne une deuxième vie, c'est l'économie circulaire, on donne une deuxième vie aux appareils numériques.
Et là, les ventes sont en train d'exploser sur le secteur en général. J'ai entendu parler de 2 millions de smartphones reconditionnés en France écoulés l'année dernière.
Voilà, 2 millions en effet, donc c'est en progression.
Sur 20 millions de mobiles vendus, voilà, donc
sur 20 millions de mobiles vendus. 10%. Voilà, c'est 10%. Il faut voir que, par exemple, dans l'automobile, c'est 70% de voitures, on va dire, d'occasion qui sont vendues. Donc, on a encore un énorme potentiel dans le secteur et on n'en est qu'au tout début.
Qu'est-ce que c'est qu'un smartphone reconditionné?
Alors, un smartphone reconditionné, c'est un smartphone qui va passer entre les mains d'un professionnel, donc comme Recommerce, et on va, premièrement, effacer les données, on va tester l'appareil, on va réparer l'appareil si nécessaire. On va par exemple changer la batterie si la batterie n'est plus en bonne condition.
Parce que c'est l'accessoire, la partie qui vieillit le plus vite, voilà. On va dire, la batterie.
Donc voilà, tout ce qui peut être en usage à améliorer. On refait un contrôle qualité à la suite de toutes ces modifications. Et enfin, on appose une garantie, donc une garantie supplémentaire sur ces téléphones. Et voilà. Et c'est ça qu'on appelle un téléphone reconditionné. Et donc, nous faisons ça depuis 11 ans chez Recommerce.
Donc, on est garanti d'avoir un téléphone fonctionnel.
Exactement.
D'apparence neuve.
Pas forcément d'apparence complètement neuve.
D'accord.
Et c'est là où nous avons une politique peut-être différente de d'autres reconditionnaires. Nous essayons d'avoir le moins d'impact sur l'environnement. Donc si un téléphone a une rayure sur l'arrière du téléphone, nous gardons cette rayure et nous la vendons comme un téléphone reconditionné.
Et donc forcément, il coûte moins cher.
Et donc il coûte moins cher.
C'est quoi à peu près la réduction? Alors voilà, ce téléphone où il y a une petite rayure, forcément vous ne vendez pas des téléphones complètement cassés, mais s'il y a une rayure, ça me coûte combien en moins par rapport au modèle neuf?
En fait, donc tout est une logique d'achat et de revente. Donc un téléphone reconditionné, c'est jusqu'à 70% moins cher qu'un téléphone neuf. Donc tout à l'heure, vous parliez des super marques chinoises qui étaient 50% moins chères. Nous, en reconditionné, ça peut aller jusqu'à 70% moins cher. Donc il y a un véritable intérêt économique pour le consommateur et puis un véritable intérêt pour le.
Mais par contre, il a forcément une durée de vie moins importante parce que derrière, on parlait des mises à jour logicielles. On achète un téléphone qui a 3 ans. Il y a déjà beaucoup de fabricants qui font pas de mise à jour de plus de 3 ans. Et ça peut aller jusqu'à 5 ans, notamment chez Apple, par exemple. C'est-à-dire qu'on a quand même plus que 2 ans de mise à jour logicielle si on achète un téléphone qui a 3 ans.
Alors, donc, en effet, ça dépend des marques. Et donc, nous, aujourd'hui, nous spécialisons uniquement sur les produits très durables, aussi sur ces parties logicielles.
Quels sont les champions du reconditionné dans le monde des smartphones?
Alors, c'est plutôt des petites sociétés. Donc, une société comme Recommerce a été créée il y a 11 ans. On fait 75 millions de chiffres d'affaires, donc ça reste une PME. Mais il n'y a pas de société leader au niveau mondial.
D'accord.
Donc c'est plus des acteurs locaux qui se sont construits au fur et à mesure des années.
Et les marques qui sont les plus représentées dans ces sociétés?
Alors les marques qui sont chez nous en tous les cas, c'est Apple, Samsung, Huawei, ce sont les marques qui sont le plus demandées en fait sur le marché.
Et alors justement, parce qu'on a Tom qui nous demande quelle est la marque de smartphone la plus écologique. Alors je vais me tourner vers vous deux. D'abord Augustin, à vos yeux, la marque quand on dit la plus écologique, c'est à la fois au niveau de la fabrication, mais surtout, je pense qu'il veut parler de smartphone durable.
Bien sûr.
Voilà. Donc en effet, j'allais pas vous donner forcément une réponse par rapport à une marque. C'est par rapport à la durabilité des téléphones. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est en effet de faire en sorte que les marques de plus en plus nous aident à réparer les téléphones. Donc on veut aller vers des composants génériques. Comme on est allé sur des médicaments génériques, il faut qu'on puisse réparer plus facilement et moins cher, donc avec des composants génériques.
Comme dans l'automobile aussi,
Tout à fait.
Donc ça reste sous garantie, même si on a d'autres pièces.
Exactement. Donc ça, c'est notre combat du moment, et c'est là où on demande de l'aide du gouvernement, c'est pousser beaucoup plus à la réparation, et à la réparation la plus facile et la moins chère possible.
Et pour vous, je sais pas, si les marques les plus durables?
Bah aujourd'hui, comme je vous disais, la majorité de nos ventes se font sur Apple et Samsung.
Et Carolinson, à vos yeux aussi
Du coup, pour effectivement compléter, en fait, en 2021, on aura l'indice de réparabilité sera obligatoire sur les équipements. Donc, ce qui donnera effectivement la visibilité pour les consommateurs.
Ça sera quoi, un chiffre, une espèce de couleur, de
lettres, etc.
Un peu comme le Nutri-Score ou la consommation des produits.
Et qui intègre aussi le prix des pièces détachées, parce que voilà, c'est bien qu'ils soient réparables, donc ça intègre en fait tous ces éléments-là. Et en 2024, il y aura un indice de durabilité qui intégrera la fiabilité et la robustesse, parce qu'effectivement, s'il faut trop souvent réparer. Donc ça donnera, en tout cas, ça poussera en fait aussi les équipementiers à aussi proposer des équipements plus...
Après, lorsque tu parlais tout à l'heure, Raphaël, tu disais qu'effectivement, si on achète un téléphone qui a 2-3 ans, on aura plus qu'une ou deux années de mise à jour logicielle, mais cela dit, c'est pas parce qu'on n'a plus de mise à jour que le téléphone ne marche pas. Il peut avoir encore de belles années devant lui.
Il faut simplement plus de dernières mises à jour.
Si on a un
smartphone reconditionné qui commence à vieillir mais qui fonctionne bien, on n'en change pas. Simplement, on s'assure qu'il y a des mises à jour de sécurité, parce que ça, c'est le plus important. Après, on n'aura pas effectivement les dernières fonctions. Après tout, franchement, si ça marche bien, il y a évidemment pas de raison de changer.
Merci beaucoup à nos invités, Augustin Becquet et Carolinson. Merci d'avoir été avec nous dans ce studio. Raphaël, on sera là la semaine prochaine.
Et oui, alors là, on parlera pas de smartphone reconditionné, on parlera de smartphone très 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 très, très neuf, mais on l'espère, durable aussi.
Durable,
puisqu'il y a Apple qui va présenter ses nouveaux iPhones, et puis on parlera aussi forcément de la concurrence. c'est ce qui existe en face.
Et puis Google, hein, qui sort son Pixel 5. Et
oui, on va en parler aussi.
Ça va être le match des titans. Raphaël, à la semaine prochaine et dans un instant, on change d'univers. Jean-Christophe Drouet là. Salut Jean-Christophe.
Salut François, bonjour à tous. Oui, nous allons tenter de vous faire gagner un petit peu d'argent. Les paris RMC, évidemment, avec toute la Dream Team, où nous allons parler de la Ligue des Nations avec quelques belles équipes sur le pont, notamment l'Espagne, l'Allemagne ou encore la Croatie. Et puis évidemment, Roland-Garros, la finale inédite chez les femmes cet après-midi.
A tout de suite donc avec Jean-Christophe pour les paris. Et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 6h pour De Quoi Je Me Mail et 7h pour 3h d'auto avec Jean-Luc Moreau. Portez-vous bien, bon week-end.